Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'était la possession la plus riche et la plus peuplée du territoire colonial français. Les livres d'école l'appelaient même le joyau de l'Empire. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, l'Indochine, d'une colonie d'exploitation à la promesse d'un état en devenir.
L'Indochine est l'une des plus belles et des plus riches possessions de l'immense empire colonial français. Près de 22 millions d'habitants sont groupés dans un territoire 2 135 675 000 carrés. C'est à peu près 4 fois la superficie de la France.
Le portrait de l'Indochine, tel que présenté à notre radio, c'était le 24 février 1941. Du début de la colonisation en 1858 jusqu'à la défaite de la France en 1954, l'Indochine fut considérée comme un joyau, un riche territoire à exploiter, une colonie lointaine aux parfums exotiques, dont l'histoire fut passablement complexe et mouvementée. Contrairement à l'Algérie, par exemple, les Français n'y furent jamais très nombreux, à peine 30 000 dans cette colonie d'encadrement, au mépris, bien souvent, de 27 millions d'indigènes.
Caoutchouc, tabac, ricin, café, thé, cacao, fruits de tout genre, mines de charbon qui rendent 2 millions de tonnes par année, zinc, plomb, fer, étain, mercure, cuivre, or, vers à soie et tout ce que l'on veut. C'est donc un pays très riche, ou plutôt, ce sont 5 pays groupés dans un même gouvernement général. L'Empire d'Annam, le Royaume du Cambodge, la Cochinchine, le Tonkin, le Laos. À la suite de circonstances dont ce n'est point ici le lieu de faire l'histoire, la France est installée là depuis près d'une centaine d'années. Elle a apporté aux populations un grand nombre de bienfaits et une prospérité matérielle supérieure à celle qui prévaut de l'Arabie à la Chine. Tout en y trouvant son avantage, la France a su faire bénéficier les indigènes de ses vertus colonisatrices et d'une juste part de la prospérité d'un pays immense qui, livré à lui-même, n'avait connu que la pauvreté.
Les vertus colonisatrices, ça témoigne bien sûr d'une époque toujours tirée de cette archive. Louis Francoeur à notre radio, c'était en février 1941. Alors pour nous en parler, mon invité, Phivan Nguyen, elle est professeure d'histoire à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Et on la joint dans nos studios à Winnipeg. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que l'Indochine a eu à une époque en France un parfum d'exotisme. Il y avait une espèce de fascination pour l'Orient. Et pourtant, c'était une colonie d'exploitation, on l'a bien entendu dans l'extrait. Alors, qu'est-ce que recherchaient les Français au départ dans ce territoire?
C'est une excellente question parce qu'on dirait que les Français eux-mêmes n'étaient pas tout à fait au clair sur ce qu'ils voulaient faire de ces conquêtes en Extrême-Orient. Ça commence en 1858 quand les Français vont conquérir un territoire qui est tout au sud de l'Empire vietnamien qui s'appelle alors l'Empire du Dai Viet. Et l'objectif initial est d'avoir l'équivalent de ce que Singapour offre aux Britanniques, c'est-à-dire une base pour établir un commerce en Asie du Sud-Est et aussi une escale pour cette route vers le marché chinois. Et au fil des années, en fait, c'est un processus qui va durer carrément 30 ans au fil des discussions, des négociations diplomatiques, mais aussi des campagnes militaires. C'est seulement en 1887 que la France a conquis l'entièreté du Cambodge, du Laos et tout le reste de l'Empire vietnamien, l'Empire du Dai Viet, et qu'ils vont rassembler dans une structure administrative qu'ils appellent l'Union Indochinoise en 1887 et qui se compose de 5 territoires. Le tout premier territoire qu'ils ont conquis et qui est une colonie, la Cochinchine, et des protectorats, un protectorat sur le Laos, sur le Cambodge, et un protectorat officiellement sur l'Empire du Vietnam, qui est encore divisé en 2 autres territoires, l'Annam au centre et le Tonkin au nord. Donc une colonisation qui est en fait très hésitante, qui commence avec juste un projet un peu en l'air et qui finit par une conquête vraiment territoriale.
Oui, sur un large territoire, hein. Mais on le disait, c'est une colonie d'exploitation. La distinction, elle est importante. C'est pas l'Algérie, par exemple, qui comptait près d'1 million de pieds noirs. Là. C'est pas une colonie de peuplement.
Effectivement, c'est une colonie qui a un rôle complètement différent. Donc, chaque territoire dans l'Empire a des fonctions qui ne sont pas forcément les mêmes. Et l'Indochine, c'est beaucoup trop loin. Donc, hors de question de transformer ces territoires comme des départements. Hein, c'est le cas pour l'Algérie française qui devient trois départements. Hors de question de s'imaginer d'envoyer des vagues et des vagues de peuplement. C'est une colonie qui est d'exploitation. Pourquoi ? Parce que, bah, comme je le disais, l'objectif initial, c'était le commerce. Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte que le terrain est fertile pour la mise en place de plantations. Et comme le montrait l'extrait d'archives, des plantations de café, de thé, de poivre, mais aussi et surtout d'EVA, dont la sève permet de produire du caoutchouc.
Oui, ben justement, hein, vous l'évoquez, donc toujours dans le but d'exploiter ce territoire, en hein, profiter de ses richesses naturelles. Un exemple ici, justement, on fait allusion à la culture de l'EVA, l'arbre à caoutchouc. C'est tiré des archives de l'INA en France en 1945.
Pour avoir une idée plus exacte de la région, il faut suivre la route dite des plantations. Ainsi, à travers les terres grises ou rouges, on se rend compte à quel point la culture de l'EVA a transformé la Cochinchine. Les détours de la route succèdent aux détours sans jamais quitter la bordure de ces forêts artificielles, subitement surgies là où il n'y avait autrefois que la brousse sauvage. De ces plantations de caoutchouc s'exhale un charme prenant, une impression de richesse et de travail fécond. Et comme pour mieux montrer de quelle façon évolue le sol cochinchinois, à côté des plantations en pleine valeur, on aperçoit des équipes de travailleurs gagnant mètre par mètre du terrain sur la brousse, dessouchant les vieux troncs d'arbres, brûlant la forêt vierge en holocauste à la forêt artificielle et retournant ensuite la glèbe. Mais cette forêt, il faut aussi la longer pendant la nuit, au moment où la Croix du Sud voisine avec la Grande Ourse. Des effluves mystérieuses dégagent à l'heure des arbres endormis et une douceur infinie se répand dans l'atmosphère.
Oui, on l'entend. Tout ça se fait au prix de gros efforts. Puis souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est que ceux qui exploitent les ressources, hein, ceux qui travaillent dans les champs ou dans les mines ou ailleurs, c'est la population locale, ce ne sont pas les Français.
Absolument, il s'agit de la population locale. Il y a très peu de Français. Vous l'avez annoncé, un grand maximum de 30 000 personnes dans les derniers jours de cette présence officielle française. Mais pour la population, c'est une colonisation qui se vit d'abord et avant tout, bon, bien sûr, par un statut tout à fait particulier de la population indigène. C'est comme s'ils n'étaient plus chez eux du jour au lendemain parce que le système juridique permet en fait d'émettre des peines sans même qu'il y ait de procès, etc. Mais c'est aussi parce que c'est le reflet d'une colonie d'exploitation. Et puis, je m'explique, c'est que puisque l'objectif était économique, il fallait dès le départ qu'on transforme cette colonie en une exploitation rentable et que donc chaque investissement du gouvernement colonial, en termes de, je sais pas, de travaux d'infrastructure, des ponts, des routes, des chemins de fer, que tout ça ne constitue pas un gouffre financier. Ah oui. Et par conséquent, l'Indochine a été dès le départ sous la condition de s'autofinancer. Et c'est pour ça que pour le quotidien des Cambodgiens, des Laotiens et des Vietnamiens sur place, le pouvoir colonial, c'était d'abord et avant tout une extraction économique, pas juste dans la productivité, mais aussi dans les impôts. Deux formes d'impôts, des impôts directs, hein, des impôts par tête, les impôts de capitation, mais enfin et surtout des impôts indirects, des impôts que l'État colonial impose sur le sel, sur l'alcool de riz et sur l'opium, et qui va constituer jusqu'à 20% des revenus du budget de l'Indochine française en 1930. Mais c'est pour dire à quel point, par rapport à toutes les autres colonies de l'Empire, l'Indochine est une source de capitaux, mais vraiment extrêmement importante. Un chercheur, Patrice Morla, a regardé, à la fin de la Première Guerre mondiale, toutes les colonies ont participé à l'effort de guerre français, à l'effort dans cette Première Guerre mondiale. Oui. Mais si l'Algérie fournit des ouvriers, fournit des soldats, même chose pour le Sénégal, etc., eh bien, si on regarde la contribution en capitaux, c'est-à-dire en argent, on peut cumuler le fait que toutes les contributions de tous les territoires de l'Empire sont même moins que ce que contribue l'Indochine toute seule en termes de capitaux à l'effort de guerre français.
Ah oui, comme quoi, c'est une importance capitale. Mais en même temps, bon, vous dites donc une exploitation, il faut que ça soit rentable. Et tout au long de la présence française en Indochine, hein, parce que c'est presque 100 ans, il y aura des soubresauts, il y aura des mouvements de révolte. Là, c'est une histoire mouvementée. Les Indochinois, comme on les appelait, ne restent pas passifs dès le début.
Non, il ne reste pas passif. Effectivement, dès le départ, en fait, dès la conquête, il y a beaucoup de résistance. C'est d'ailleurs pour ça que l'Empire du Vietnam se retrouve divisé en trois territoires. Hein. C'est parce que la noblesse résiste avec les armes. Hein. Mais en fait, les Français se rendent compte très, très rapidement que la pacification, une fois que la conquête est terminée, reste encore à effectuer la pacification et que celle-ci s'avère toujours très difficile. Alors, ils butent, mais de manière périodique, encore et toujours, face à une résistance armée.
Oui, tout à fait. Et ça va d'ailleurs forcer la colonie à se transformer, à s'ajuster. Comment cette colonisation se réinvente avec le temps?
Oui, vous avez raison de le mentionner. Ça ne va pas être une colonie d'exploitation qui va rester inerte du début à la fin. En fait, au fur et à mesure où on rencontre tant de résistance, on va demander au gouvernement colonial de revoir sa manière de gouverner et de trouver un moyen pour convaincre la population autochtone de moins se rebeller. Et la personne qui va être envoyée, c'est Albert Sarrault, qui va être chargé du titre de gouverneur général en 1912. Et c'est un homme qui est extrêmement intéressant parce que non seulement il va cumuler les mandats en tant que gouverneur général de l'Indochine, mais à terme, il va même devenir ministre des colonies parce qu'il a une vision pour mettre fin à cette résistance et puis pour donner, si vous voulez, un second souffle, hein, un véritable souffle à cet empire français. C'est une vision qu'il va cristalliser dans un livre qu'il publie et qu'il nomme « La mise en valeur des colonies ».
Et qu'est-ce que ça dit, ça, la mise en valeur des colonies? Comment ça s'articule concrètement?
Alors, pour Albert Sarrault, la mise en valeur des colonies, c'est convaincre la population autochtone que la colonisation française, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. C'est en fait leur dire que l'objectif n'est pas une assimilation, on n'essaie pas de transformer chaque Vietnamien, là aussi un Cambodgien, en petit Français, mais qu'en fait, la présence française est là pour leur apporter la civilisation, mais aussi est là pour promouvoir leur culture locale, leur langue locale, leur histoire locale. Et cette promesse n'est pas juste une promesse en l'air, hein, elle va s'accompagner par toute une série de mesures et de programmes culturels. On va développer une université, des écoles publiques, on va promouvoir la langue écrite, des journaux, etc. De telle sorte à ce que véritablement la population autochtone soit convaincue que les Français sont là pour les protéger, hein, pour les promouvoir, et qu'ils arrêtent de se rebeller. Et ça va même jusqu'au point où Albert Sarrault un jour tiendra un discours, il va s'adresser à la population vietnamienne, qu'il appelle alors la population annamite, et il va même dire, vous savez, l'Union indochinoise, en fait, c'est un État en devenir. Ce qui sous-entend que le jour où la population autochtone sera suffisamment prête, civilisée, entre guillemets, hein, elle sera capable de devenir autonome.
Ah oui, parce que Albert Sarrault, bon, c'est presque un monarque absolu en Indochine. Hein. C'est lui qui dirige, c'est le paradis des fonctionnaires qui mènent la bonne vie, une vie quand même confortable. Ça ressemble à quoi, justement, en Indochine, la vie sous le régime colonial, pour les Français et pour les Indochinois?
Alors, pour les Français, ils ne sont pas très nombreux. Il y a des administrateurs coloniaux, mais une très grande partie des fonctionnaires hein, sont quand même un personnel autochtone. Mais c'est surtout une population de commerçants, hein, d'entrepreneurs, des planteurs. Il y a aussi des scientifiques, hein, l'Institut Pasteur, par exemple, hein, beaucoup de chercheurs. C'est une population, hein, qu'on va dire française, mais elle est aussi européenne. Hein. Il va y avoir des commerçants d'autres nationalités occidentales qui sont présents. La population autochtone, elle aussi, connaît un très, très grand changement. Alors, il va y avoir, bien sûr, vous l'avez dit, avec la mise en place de cette colonie d'exploitation, toute une masse ouvrière, des coulis qui vont être des fois déracinés de leur propre milieu social pour être envoyés dans des plantations, etc. Mais il y a aussi toute une élite autochtone qui se forme un savoir occidental, une bourgeoisie qui s'enrichit aussi grâce à toutes les opportunités économiques qui viennent avec ce commerce international. Et donc, c'est une société qui elle-même se transforme, bien que hein, évidemment, les frustrations vont continuer hein, de s'accumuler au sein de cette population.
Toujours avec cette vision française hein, d'une mission civilisatrice, la France qui a assuré la pacification dans une région du monde agitée, divisée, en tout cas c'est ce qu'on disait. On va écouter ce sujet. Léon Pignon, ancien administrateur colonial en Indochine, s'est tiré des archives de l'INA en France en janvier 1951.
On ne mettra jamais assez en valeur l'action bénéfique exercée par les grandes puissances coloniales, l'Angleterre et la France, au cours du siècle dernier. Comme Rome, elles ont rempli dans une époque donnée l'histoire du monde, avec beaucoup plus de désintéressement qu'on l'admet en général, une mission essentielle pour la civilisation et le progrès humain. Elles ont imposé, puis maintenu, l'ordre et la paix. De son établissement en Indochine, jusqu'aux premières années du XXe siècle, la France a consacré l'essentiel de ses efforts à la pacification des pays et à leur libération des tutelles étrangères qui pesaient encore sur eux. La pacification ouvrait les voies au développement économique et social. Il appartenait au grand gouverneur général que fut Paul Doumer, poursuivant et achevant l'œuvre de Paul Bert, de donner à l'Indochine la structure fédérale connue sous le nom d'Union indochinoise, et l'instrument financier le budget général qui devait permettre un prodigieux essor.
Voilà, prodigieux efforts. On est en janvier 1951, donc la guerre d'Indochine à ce moment-là est déjà commencée. Alors, comment se manifeste cette résistance qu'on a déjà évoquée, résistance indochinoise, durant les décennies qui la précèdent? Parce qu'ultimement, il y aura cette guerre d'indépendance.
Absolument. Je pense que c'est important de revenir sur l'idée qu'il y a un sentiment nationaliste qui va émerger. Oui. Et de manière assez intéressante, en fait, la politique coloniale d'Albert Sarraut, cette mise en valeur des colonies, est aussi indirectement responsable de cet éveil nationaliste. Puis c'est pas très surprenant, en fin de compte. Parce que plus on va dire aux gens, mais regardez votre histoire, regardez votre langue, regardez votre patrimoine, regardez votre culture, de plus en plus, ces gens-là vont commencer à s'imaginer comme étant pas juste un peuple, mais une nation qui peut-être, effectivement, mériterait d'être souveraine sur son territoire. Et à partir de là, il y a un sentiment nationaliste qui est évident, mais qui va se diviser en deux. D'un côté, il va y avoir des nationalistes qui croient en la bonne foi de la France, puis qui pensent effectivement qu'un jour, Paris donnera une autonomie, un rôle de partenaire. Et de l'autre, il y a ceux qui pensent que la France est de mauvaise foi, qu'elle n'est pas capable de donner une indépendance et une autonomie aux populations de l'Indochine et qui vont donc se tourner vers un renversement violent. Et c'est le cas, par exemple, pas juste de constitutionnalistes qui vont devenir révolutionnaires, mais aussi d'un certain Ho Chi Minh qui va se tourner vers le communisme comme une réponse extrêmement violente, justement, à l'Empire français.
Oui, tout à fait. Bien, c'est la figure importante qui va émerger. C'est lui qui va devenir le héros de l'indépendance, une des grandes figures de l'anticolonialisme. Et c'est lui, donc, qui va réussir à cristalliser ou, à fédérer les rébellions à ce moment-là.
Absolument, parce que ce qui est très intéressant avec Ho Chi Minh comme personnage, c'est qu'il a lui-même un parcours. Alors, il ne faut pas croire, et pourtant, il fait partie des membres fondateurs du Parti communiste français, oui. Mais à l'origine, il avait demandé des réformes à la France. Donc, ce n'était pas un discours révolutionnaire, c'était une lettre qu'il avait envoyée au lendemain du traité de Versailles, qui demandait à la population de la métropole vraiment de respecter cette parole, de vouloir reconnaître en la population annamite cette vocation de devenir une nation indépendante. C'est petit à petit qu'il s'est tourné vers un discours beaucoup plus radical, mais effectivement, la formule qu'il trouve pour rallier beaucoup de monde, en fait, à cette cause nationaliste, c'est que bien qu'il soit communiste, il a quand même formé comme première organisation large, bon, d'abord un parti communiste indochinois, mais au début des années 1940, avec l'occupation japonaise de l'Indochine, il va former un front nationaliste. Donc, il ne va pas du tout parler de communisme, il va appeler tout Vietnamien, Laotien et Cambodgien, d'ailleurs, à résister à cette double occupation, une occupation française, mais aussi une occupation japonaise.
Ah oui. Mais justement, quel rôle a joué le Japon dans la fin de l'Indochine française?
Oui, c'est intéressant parce qu'on parle d'éveil nationaliste, de radicalisation, on parle même de Ho Chi Minh, mais en fin de compte, ceux qui ont sonné le glas du pouvoir colonial français, ce sont les Japonais. Pourquoi ? Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils créent leur empire en Asie du Sud-Est et ils vont occuper l'Indochine française, non pas par la force, mais parce que les Français ont signé un accord de collaboration avec eux. Alors d'un côté, tous ceux qui croyaient encore en la bonne foi des Français sont un peu déçus constater que la France protectrice ne les a pas du tout protégés. Puis d'un autre côté, les gens qui, comme Ho Chi Minh, demandent une lutte armée, voient que les Japonais ont été capables d'infliger une victoire militaire sur, non pas juste une, mais plusieurs armées occidentales. Donc ça, c'est vraiment un moment très important qui montre à quel point les empires occidentaux sont faillibles. Mais en fin de compte, là où le Japon a eu un rôle absolument déterminant, c'est que vers toute la fin de la guerre du Pacifique, en 1945, ils voient que la guerre en Europe est finie, que rien ne va plus pour eux, ils perdent autant à l'est qu'à l'ouest, et ils vont tenter le tout pour le tout. Et le 9 mars 1945, ils vont retourner leur veste et ils vont s'attaquer au gouvernement colonial français. Donc c'est très simple, les armées japonaises vont encercler le gouverneur général, tous les bureaux de l'administration coloniale française, la police coloniale française, et ils vont mettre en prison tous les administrateurs coloniaux, les policiers français, etc., et mettre en résidence surveillée tous les citoyens, en fait, des nations alliées. Et donc, pour la première fois, les Vietnamiens, les Laotiens et les Cambodgiens, du jour au lendemain, presque, se retrouvent débarrassés de toute présence officielle et même physique, puisqu'ils sont en prison, française. Et c'est ce qui permet, en fait, au roi du Vietnam, qui n'avait qu'un pouvoir que très symbolique auparavant, c'est lui qui est le premier, en mars 1945, a proclamé l'indépendance et l'unité du Vietnam Et donc, pendant toute cette période de temps, hein, même s'il y a ce nouvel État qui est proclamé, il va y avoir un vide politique, un véritable chaos social. Hein, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et c'est ce qui va permettre à Ho Chi Minh et au Viet Minh de s'emparer du pouvoir et de proclamer, 6 mois plus tard, hein, un nouvel État, la République démocratique du Vietnam.
Oui, tout à fait. Ce qui ne fera pas l'affaire de la France, bien sûr, parce que ultimement tout ça va mener, et c'est le début donc de ce qu'on appelle la guerre d'Indochine. Violent conflit parfois oublié et sorte de prélude également à la guerre du Vietnam par la suite. De la présence française, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Et déjà, étonnamment, c'était le cas en 1964. Pourtant, on est 10 ans à peine après la bataille de Dien Bien Phu. À ce sujet, justement, Ho Chi Minh en français, l'émission 5 colonnes à la une, l'ORTF dans les archives de l'INA en France.
Monsieur le Président, nous avons constaté avec chagrin qu'au cours de notre voyage au Nord-Vietnam, que l'influence française était devenue à peu près inexistante dans votre pays. Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français. Et je me demande si, à votre idée, des rapports peuvent se rétablir tels que la France continue à jouer une sorte de rôle culturel ici.
Avec la France, surtout, et avec tous les autres pays. Nous voulons avoir une coopération amicale, culturelle, économique, etc. Mais je suis sûr que vous ne voulez pas avoir, n'est-ce pas, que la France ait l'influence qu'elle avait avant. C'est une autre chose.
Naturellement, c'est une autre époque.
Mais coopération culturelle, économique, qu'est-ce qu'il y a encore, sportive, par exemple, etc., etc., n'est-ce pas, nous le dirons.
Oui, on l'entend. La France, un pays comme un autre, c'est un peu ça qu'il dit, là. Oui, une coopération, mais l'État colonial, c'est terminé.
Absolument. Je pense que Ho Chi Minh est très clair là-dessus. Hors de question de revoir un pouvoir colonial. Mais la chose qui est très intéressante, donc bien que les Français et la présence officielle française partent assez définitivement du Nord en 1954 et pas beaucoup longtemps après, en 1955-56, dans le Sud, la France va continuer à jouer un rôle presque de pivot diplomatique. Et ça, c'est assez intéressant. Pendant toute la guerre qui va opposer Hanoï aux États-Unis, se déclencher dans le Sud, eh bien, la France va toujours apparaître comme un possible appui diplomatique pour justement appuyer des idées de neutraliser la guerre, possiblement créer une table de négociation. C'est pas pour rien, en fait, que les accords de paix qui vont être négociés entre le Front de Libération Nationale, Hanoï et Washington vont avoir lieu à Paris et être conclus en 1973 avec un accord de paix.
Oui, tout à fait, parce que les Français l'ont vécu avant, une guerre sanglante, je disais, guerre d'Indochine, hein, dont on parle peu, mais 500 000 de victimes selon les chiffres officiels, hein, et ça s'est poursuivi par la suite, oui, avec d'une autre façon, mais bien sûr, avec les Américains, la guerre du Vietnam. Mon invité, en tout cas fort intéressant, Phivan Nguyen, elle est professeur d'histoire à l'Université de Saint-Boniface, c'est au Manitoba, elle nous parlait donc depuis nos studios à Winnipeg, les spécialistes, vous l'aurez compris, de l'Asie du Sud-Est. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Mais je vous en prie.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier. Bonne soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.